BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Comme toutes les semaines, sur cette antenne, votre rendez-vous consacré à l'actualité des crypto-monnaies. Nos trois invités, Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour Claire.
Bonjour.
Avec nous également Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Usher. Bonjour Owen et merci également d'être avec nous. Troisième invité, Vincent Bois, analyste marché chez IG. Bonjour Vincent. Vincent Bois qui en théorie est en ligne avec nous.
Oui, bonjour.
Bonjour Vincent. Ben, on va commencer avec vous, tiens Vincent. La guerre en Ukraine, les politiques monétaires incontrôlables, est-ce qu'elles pourraient permettre d'entrevoir un avenir radieux pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies, en tout cas à court terme?
Alors, c'est ce qu'on a vu justement pour la guerre en Ukraine. Malheureusement, cela a été déclenché il y a presque un mois. Et au début de ce conflit, on a vu justement au niveau technique justement une hausse du Bitcoin, une hausse des crypto-monnaies qui n'a finalement pas tenu jusqu'ici. De la même façon sur les politiques monétaires et cette théorie d'avoir un actif qui pourrait nous permettre d'avoir un autre système monétaire, une autre alternative, amène souvent à des hausses qui ne tiennent pas pour le moment. Donc, ces points sont plutôt positifs pour le Bitcoin, peut amener justement à entrevoir une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'envoyer de l'argent, de payer, d'un système monétaire alternatif. Mais le problème est justement pour la notion de court terme, c'est que les actifs, les crypto-monnaies, le Bitcoin sont pour le moment encore trop liés aux actifs ultra spéculatifs. Et donc, ça reste cette notion spéculative qui garde le dessus, même si, comme je le disais, on voit des mouvements qui pourraient nous laisser penser que les utilisateurs ou le grand public pourraient utiliser le Bitcoin, les crypto-monnaies, pour envoyer de l'argent en Ukraine, comme on l'a vu, ou en tout cas dans des zones où il est difficile d'envoyer de l'argent, ou encore pour essayer d'avoir un système monétaire différent. Donc, cela pourrait être très bon et avoir un avenir, comme vous le dites, radieux sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais plutôt à moyen et long terme. Cela nous donne des pistes, finalement, de réflexion sur l'utilisation des crypto-monnaies. Actuellement, et donc à court terme, on reste, on le voit, sur un actif très spéculatif et donc beaucoup trop lié aux actifs risqués encore actuellement.
Et sur le Bitcoin, on est repassé au-dessus des 40 000 dollars. Peut-être un commentaire, Owen, sur ce niveau symbolique?
Le point qui est le plus regardé, c'est justement cette fameuse barrière des 45 000 dollars, parce que si elle est brisée, ça signifierait une reprise de la tendance haussière et pourquoi pas aller chercher des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. Encore une fois, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est entre ces fameux 45 000 dollars et 33 000 dollars, donc les gens ne se prononcent plus trop. On attend justement d'avoir un signal fort qui va pouvoir du coup dessiner la prochaine tendance.
Vincent, la Russie propose de payer son gaz et son pétrole en Bitcoin. Est-ce que ça permettrait, bon, d'abord aux Occidentaux de sauver la face et de ne pas le payer en rouble, mais quel impact plus large ça pourrait avoir pour les cryptos?
Alors cela amène justement à peut-être une nouvelle étape dans le Bitcoin, les crypto-monnaies, puisqu'on a eu d'abord un pays que maintenant tout le monde a regardé, le Salvador, sur une monnaie nationale à l'égal du dollar américain, première étape. Et puis maintenant, pourquoi pas une éventualité d'avoir le Bitcoin pour des paiements internationaux sur des marchés qui sont régulés, avec des sociétés qui sont cotées, également un État qui est dans la balance. Donc, une nouvelle étape qui pourrait être franchie. Donc, très bon sur le papier pour le marché des crypto-monnaies, mais le problème est que on pourrait également associer cette crypto-monnaie à la Russie, à la guerre, à la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. Et deuxième chose, c'est que l'Europe, l'Union européenne, qui a déjà un peu plongé son nez dans la régulation des crypto-monnaies, on l'a vu au travers de cette régulation MiCA, pourrait critiquer encore plus le Bitcoin en précisant que cela sert à détourner les sanctions, puisque utiliser le Bitcoin pour payer l'énergie en Russie amène justement à détourner ou à réduire l'effet des sanctions que l'Union européenne a mis. Donc sur le papier, cela est très bon, c'est cela peut être une nouvelle étape, mais le problème, c'est que cela peut amener à une critique encore plus forte des États, notamment européens, et une régulation qui pourrait s'accélérer. Donc, de la même façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela peut être également amené à lier le Bitcoin à la Russie, à la guerre, et donc pas forcément à quelque chose de très positif.
L'actu des cryptos, c'est également Goldman Sachs qui a exécuté le premier trade en OTC de crypto-monnaie. C'est une grande nouvelle pour une banque de Wall Street, évidemment. D'abord, pour commencer, Claire, peut-être un petit mot d'explication. Qu'est-ce que le trading OTC ?
Alors, le trading OTC, c'est le trading qui se fait hors des bourses, hors des exchanges, qui se fait vraiment de gré à gré. Et donc c'est assez symptomatique souvent quand il y a des transactions qui se font sur des montants importants qui sont très significatifs par rapport à la liquidité globale du marché, les bourses, les exchanges ne peuvent pas absorber ces trades aussi simplement, et donc les acteurs comme Goldman Sachs ici vont passer en gré à gré. Et je trouve ça assez typique finalement que sur Bitcoin on en arrive là aujourd'hui avec du trading OTC qui se multiplie. Ça montre vraiment qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui sont venus sur ce marché et qui passe désormais hors des exchanges où finalement vous et moi en tant que particulier on peut acheter de la crypto, mais qui ne conviennent pas pour des sommes vraiment importantes, et ça se voit aussi d'ailleurs sur certains exchanges, hein, on voit quand on regarde les chiffres sur Coinbase Global par exemple que les volumes tradés par des institutionnels ont été multipliés par 10 en un an et dépassent aujourd'hui les volumes tradés par des particuliers.
Alors je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais aujourd'hui Owen a mis une veste, c'est peut-être justement pour refléter cette tendance. Owen, pourquoi avoir fait plus sérieusement ce premier trading en OTC et quelles pourraient être surtout les conséquences?
Alors, pour le coup, c'est un signal fort qui est envoyé à de grands nombres d'institutions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Goldman Sachs Bank n'était pas seule dans ce deal OTC. En l'occurrence, ils ont collaboré avec Galaxy Digital Holding, qui est une société qui existe depuis 4 ans, qui propose des solutions pour les institutions afin justement d'interagir avec les différents marchés financiers et qui, en moins de 4 ans, adresse déjà plus de 700 institutions. Le fait qu'une société aussi importante que la Goldman Sachs Bank réalise sa première transaction OTC, ça va ouvrir le champ à de tout nouveaux chantiers, justement. Que ce soit des nouvelles opérations, que ce soit, pourquoi pas, des nouveaux produits financiers basés sur les crypto-monnaies, en tout cas, plus d'une institution va être inspirée par cet acte et va vouloir elle aussi s'intéresser à ce marché. De la même façon, on sait justement que les échanges OTC ont des volumes qui sont vraiment grandissants en ces périodes. Je prends par exemple l'exemple de Kraken OTC, donc Kraken qui est une grosse plateforme d'échange qui a de plus en plus de volumes et de demandes sur ces deals OTC également par les institutions, ou encore Wharton dont les fondateurs sont français et qui m'expliquait récemment que les volumes étaient justement en pleine croissance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on a besoin d'acheter une très grosse quantité de Bitcoin, naturellement, aller acheter au marché peut être contraignant et on peut, en achetant beaucoup, faire augmenter le prix. Et c'est pas l'objectif d'un acheteur. Au contraire, l'objectif d'un acheteur, c'est de se positionner sans faire de vagues, sans justement bouger les cours. Et ça va devenir, du coup, l'intérêt des grosses institutions qui, elles, ont des gros volumes financiers à exécuter.
Aux États-Unis et en Europe, on parle de plus en plus du lancement des MNBC, les monnaies numériques banques centrales. Est-ce que ces MNBC, Claire, sont une menace pour les stablecoins ?
Non, je pense pas du tout. Pour plusieurs raisons. Déjà, à mon sens, la première raison, elle est technique. Les MNBC telles qu'elles sont envisagées aujourd'hui, c'est pas des crypto-monnaies, c'est pas des monnaies décentralisées, elles sont pas basées sur des blockchains. Les MNBC telles qu'on le voit dans les différents papiers qui sortent, c'est plutôt des monnaies centralisées avec des infrastructures techniques beaucoup plus classiques, traditionnelles que des blockchains. Or, les stablecoins, leur gros atout, c'est qu'ils fonctionnent sur des blockchains et donc qu'ils peuvent être échangés assez facilement avec des crypto-monnaies, pardon. Ils peuvent être listés sur des exchanges, ce que ne pourront pas être les monnaies numériques de banque centrale. Et donc, on met souvent les MNBC et les stablecoins sur le même plan, mais techniquement, a priori, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, ce ne sera pas forcément en concurrence. Et la deuxième raison, pour moi, elle est temporelle. Les monnaies numériques de banque centrale, ça n'existe pas encore. Les stablecoins, c'est déjà là. En tout cas, les stablecoins dollars. On envisage un euro numérique, un euro digital qui sortirait en 2025, 2026, 2027. On ne sait pas trop. Et cet horizon temporel, il est très long par rapport aux cryptos. Et donc, pour toutes ces raisons, pour moi, les stablecoins ont en fait beaucoup plus d'avenir que les monnaies numériques de banque centrale, qui sont aujourd'hui trop lentes à arriver et sur des infrastructures techniques qui ne correspondront plus, à mon sens, aux standards de marché qui sont en train de se mettre en place.
On sent quand même qu'elles y vont sur la pointe des pieds, hein, les banques centrales.
Elles essaient, bien sûr. Elles voient des monnaies numériques qui se créent partout, donc elles ont tout intérêt à vouloir maintenir leur compétitivité. Mais une monnaie numérique de banque centrale qui serait compétitive, pour moi, ce serait un stablecoin.
Est-ce que ces stablecoins, Owen, pourraient être utilisés dans la finance décentralisée ?
Alors, Ma réponse va être assez succincte parce qu'on n'a pas de visibilité encore, on ne peut pas le savoir, mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où elles sont basées sur une technologie qui, elle, peut être publique, si par exemple une monnaie de banque centrale aurait été créée sur la blockchain Ether, à ce moment-là, il serait tout à fait possible de le proposer dans des protocoles de finances décentralisées. Encore une fois, ça va dépendre de deux choses. Premièrement, le cadre légal, parce que je pense que, imaginons, la Banque Centrale Européenne qui propose une monnaie va définir un cadre sur cette monnaie et donc tout simplement permettre ou non l'ajout à certains protocoles. Mais d'un point de vue technique, en fonction de la technologie blockchain qui sera utilisée, des personnes pourront utiliser des services de finances décentralisées sur cette monnaie. De l'autre côté, est-ce que la communauté décentralisée et la communauté du monde de la blockchain aura envie de permettre de la finance décentralisée sur des assets qui sont bel et bien totalement contrôlables par la Banque Centrale Européenne ? Ça, ça dépendra également de ces différents acteurs. En attendant, d'un point de vue technique, oui, ça semble totalement faisable.
On va parler toujours à propos des stablecoins, de l'UST. Vous en avez déjà parlé hein, avec Guillaume Sommerer dans cette émission. On salue Guillaume au passage. Jusqu'à présent, c'était un stablecoin algorithmique assuré par le cours de Luna et un mécanisme de création assez technique. À présent, le créateur de Luna a expliqué que le token UST sera en grande partie soutenu par le Bitcoin. Quelles sont les mesures qui ont été prises, Claire, pour permettre ça ?
Alors, pour bien expliquer ce qui se passe, effectivement, l'UST, c'est un stablecoin qui est indexé sur le dollar, comme la plupart des stablecoins de marché, en fait, mais qui a la particularité d'être algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'est pas backé directement par du cash sur un compte bancaire. Donc, les grands concurrent de l'UST, ça va être par exemple l'USDC ou l'USDT, qui sont backés par du dollar ou des actifs financiers traditionnels dans un compte bancaire. L'UST, il a un fonctionnement plus décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas backé par du dollar sur un compte bancaire, mais qu'il est backé par une sorte de crypto-monnaie de stabilisation et avec des algorithmes qui permettent d'ajuster l'offre de l'UST pour faire en sorte qu'il y ait toujours cette parité face au dollar. Et donc jusqu'ici, la crypto-monnaie de stabilisation, c'était le Luna, comme vous l'avez dit. Mais évidemment, ça crée une forte dépendance au Luna, ça peut créer des variations de cours, on l'avait vu l'année dernière. Et donc là, la politique qui est mise en place, c'est justement d'avoir un peu plus d'hybridation et de ne pas dépendre que du Luna, mais d'avoir aussi du Bitcoin comme crypto-monnaie de stabilisation en complément du Luna. Donc sur les modalités techniques, après c'est encore un peu flou, mais ce qui est envisagé, c'est notamment de mettre les Bitcoins dans un smart contract sur Cosmos, puisque Terra fait partie de cet écosystème-là. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que ça va aussi créer une pression acheteuse finalement sur Bitcoin, et ça consacre le fait que Bitcoin, c'est la valeur de référence, c'est encore la monnaie de référence dans tout cet écosystème, et même sur les autres blockchains qui se mettent en place, le Bitcoin, ça reste la valeur refuge, la valeur sûre dans l'écosystème des crypto-monnaies. Mmh.
Quelles sont les contraintes techniques pour la mise en place de cette réserve, Owen ?
Alors, il y en a plusieurs. La toute première contrainte qu'on peut observer, c'est que pour avoir une réserve de 10 milliards de dollars de Bitcoin, il faut acheter 10 milliards de dollars de Bitcoin. Ça représente 230 000 Bitcoin à l'heure actuelle. C'est un montant colossal. Et en l'occurrence, pour revenir sur la première question de notre échange aujourd'hui, là, il va falloir trouver des deals OTC. Ensuite, il va falloir également trouver ces fonds. Actuellement, plusieurs milliards sont déjà à la disposition de la fondation Luna, sauf qu'il va falloir évidemment attendre un certain temps pour avoir l'entièreté des fonds nécessaires afin d'acheter du Bitcoin et ensuite trouver des providers qui peuvent, au prix du marché, fournir d'aussi grosses quantités. Ça va être le côté purement financier, mais pour le coup, s'ils l'envisagent, c'est qu'ils ont déjà des réponses ou des débuts de réponses sur ce schéma-là. En attendant, il y a un autre type de problématique, ça va être les problématiques techniques. En l'occurrence, la blockchain Luna est une blockchain qui vient de l'écosystème Cosmos. C'est une technologie qui est différente de la blockchain Bitcoin. Donc, si on veut prendre des Bitcoins et les mettre en réserve sur une blockchain Luna, à ce moment-là, on va devoir utiliser ce que l'on appelle un bridge, un pont qui permet d'utiliser une crypto-monnaie sur une autre technologie blockchain. Et donc, ce pont-là, naturellement, il va falloir le construire et ensuite être certain qu'il soit totalement solide, qu'il va pouvoir résister à de potentiels hacks, parce que pour 10 milliards de dollars, l'appât du gain va susciter l'intérêt de plus d'un hacker. Mais ça encore, il y a déjà des solutions qui existent et on sait que ça va être possible. Le truc qui est très intéressant à comprendre et que l'on doit tirer de cette leçon, c'est de se rendre compte qu'un écosystème qui a créé sa propre blockchain se rend quand même compte que pour préserver de la valeur et pour garantir l'intégrité du PEG, donc ce qu'on appelle le PEG, c'est la certitude qu'un UST égale $1, eh bien on veut une réserve sur l'une des monnaies les plus fiables et les plus solides de tout l'écosystème cryptographique aujourd'hui, le Bitcoin. Et c'est ça qui est intéressant à retenir dans cette histoire.
Un petit mot de réflexion peut-être pour terminer sur le marché des cryptos, mais aussi les marchés financiers peut-être en général. La force du free market réside dans le fait que le marché puisse soit grimper, soit aussi parfois être victime de recul, de récession. Lorsqu'on connaît les baisses violentes qu'il y a eu sur le marché des cryptos en 2014 ou 2018, quelles sont les conséquences, Owen ? Il nous reste assez peu de temps, il faut qu'on fasse vite.
Pas de souci. Alors, il y en a plusieurs, bien trop pour que je puisse répondre en quelques secondes, mais les conséquences. Premièrement, il y a une curation. Dès qu'il y a un effet de mode, oh, c'est les crypto-monnaies, les NFT, les ci, les là, tout plein d'initiatives se lancent. Des initiatives concrètes qui apportent de la valeur, mais plein d'autres qui viennent juste essayer de surfer sur une vague de tendance. Quand il n'y a plus la vague des tendances, tous les projets inutiles meurent et ça laisse de la vraie place aux projets qui essayent de construire de la valeur. Ensuite, d'un point de vue des régulateurs, on va arrêter de juger les crypto-monnaies et la blockchain sur quelques usages qui essayent de surfer sur la tendance, mais bel et bien sur les vrais entrepreneurs qui essayent de construire des outils utiles pour ceux qui veulent construire dans cet écosystème. Donc la régulation pourrait être plus saine. Ensuite, ça donne du temps, du recul et de l'oxygène à ceux qui construisent, car quand le Bitcoin monte très fort et qu'il y a beaucoup de demandes, on a du mal à structurer son business et ses entreprises, puisque l'on doit livrer la demande. Et ça donne donc du recul, ça vient en gros nourrir cet écosystème et ça vient permettre un développement plus durable. Le tout dernier point que je dirais, ça va être le fait que c'est vrai que quoi qu'il arrive, il y a des grosses prises de valeur et des baisses de valeur dans le monde de la crypto-monnaie, mais c'est un écosystème qui s'auto-régule. On ne peut pas du coup imprimer de la nouvelle supply ou des nouveaux bitcoins quand on le veut pour réguler à notre sauce l'écosystème. Naturellement, il peut prendre de la valeur quand il y a beaucoup de gens qui en veulent et qu'il y a une surdemande. Et de la même façon, dans l'autre sens, quand il y a une accalmie, naturellement, il y a moins de demandes, moins de pression acheteuse et donc le prix des crypto-monnaies se régule directement.
Claire, vous voulez compléter ?
Non, je suis complètement d'accord avec Owen. C'est vrai qu'on voit que le marché crypto a des grandes différences quand même avec les marchés traditionnels. Hein. Il est ouvert 24 heures sur 24, ouais. 7 jours sur 7. Donc c'est un marché qui va aussi beaucoup plus vite avec des effets de mode qui arrivent plus vite, qui partent plus vite. On voit dans la DeFi notamment que toutes les applications interagissent les unes avec les autres, avec beaucoup d'interopérabilité. Maintenant, c'est pas non plus un marché qui est complètement absent d'intermédiaires. Et c'est vrai qu'on voit aussi des acteurs devenir de plus en plus influents. Alors pas autant que peuvent l'être la Fed ou la BCE sur les marchés monétaires classiques. Mais voilà, moi ma crainte c'est qu'on arrive quand même vers une recentralisation aussi de ce marché-là avec sa maturité, ce qui conduirait finalement aux mêmes écueils que ce qu'on voit dans la finance traditionnelle.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été pédagogiques et clairs pour que les personnes âgées comme moi puissent comprendre aussi toute l'actualité des cryptos. Merci à vous Claire Balva, directrice blockchain Merci. Et crypto chez KPMG France. Merci à Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Usher. Et merci à Vincent Bois, analyste marché chez IG. Il est 16h53.